Bonjour et bienvenue à la présentation des résultats semestriels 2022 de Fnac Darty. Je m'appelle Stéphane et je serai votre opérateur pour cette conférence. Veuillez noter que cette conférence est enregistrée et que, pendant la conférence, vos lignes seront uniquement en écoute. Cependant, vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de la présentation en tapant étoile 1 sur votre clavier de téléphone. Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez à tout moment cliquer sur étoile 0 pour être connecté à un opérateur. Je vais maintenant passer la parole à vos hôtes pour débuter cette conférence. Monsieur Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, et Jean Veillot-Lotinier, directeur financier de Fnac Darty. La parole est à vous.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour la présentation des résultats semestriels. On sait bien que les rythmes des publications aujourd'hui est très intense pour la dernière semaine des juillet. On vous remercie de votre présence. Nos résultats du premier semestre sont solides et je tiens à remercier tous nos collaborateurs pour leurs contributions et leur engagement au quotidien. Dans un contexte géopolitique et économique en constante évolution, nous réussissons à tenir un cap ambitieux dans le développement de notre plan stratégique Everyday. Notre engagement pour la durabilité des produits et la protection des pouvoirs d'achat est au cœur de notre ambition d'évoluer vers un modèle de consommation responsable. Notre engagement pour les pouvoirs d'achat, nous l'avons également appliqué en interne avec les versements des primes de soutien à peu près 80% de nos équipes pour les aider à faire face à la pression qui exerce l'inflation et la crise énergétique sur leur quotidien. Cette mesure mettait les particulièrement en cœur. On passe maintenant aux chiffres clés des premiers semestres. Slide 3 de notre présentation. Notre chiffre d'affaires semestriel s'élève à plus de 3,4 milliards d'euros, en légère baisse de 1,1% en données publiées. Cela traduit une amélioration de tendance avec une stabilité au second trimestre après une baisse de moins 2% au premier trimestre cette année. Tout au long du semestre, dans un contexte de disruption des chaînes logistiques, nous avons été particulièrement vigilants pour assurer la disponibilité de nos produits en collaborant étroitement avec nos fournisseurs. Mais il ne faut pas surtout oublier que nous sortons de 2 années de consommation atypique, en 2020 et 2021, marquées par les confinements, avec une réallocation des dépenses des ménages sur les dépenses domestiques, livres informatiques, équipements de la maison. Si on prend par rapport au premier semestre 2019 pro forma, les chiffres d'affaires semestriels progressent de plus de 8,4%. Et cela nous semble être les bons indicateurs qui traduisent notre performance et nous donnent les premiers signes de la réussite de nos plans stratégiques Everyday. Les taux de marge brute atteignent un niveau élevé à 30,9% sur les premiers semestres. C'est une très solide progression par rapport au premier semestre 2021, des plus 120 points de base, qui provient principalement d'un mix produit favorable, de la croissance du parc d'abonnés de l'Artimax et de la reprise de la billetterie. Ainsi, le taux de marge brute est en ligne avec le niveau pro forma pré-crise des premiers semestres 2019, hors effet technique inutile de la franchise. Enfin, les résultats opérationnels courants s'élèvent à 19 millions d'euros au premier semestre 2020. Il est stable par rapport à celui du premier semestre 2021 et du premier semestre 2019 pro forma, hors effet prime des pouvoirs d'achat de près de 7 millions d'euros et l'impact du déploiement des nouvelles activités au cours du semestre. Passons maintenant à l'analyse par canaux de distribution et par catégorie de produits. Slide 4. Avec la réouverture de l'ensemble de nos points de vente, les ventes en magasin enregistrent une solide progression au premier semestre 2022 dans toute notre zone géographique. Ces retours massifs des clients dans nos magasins est une grande satisfaction pour nous. Il traduit la pertinence de notre modèle multicanal. Les ventes en ligne représentent aujourd'hui 22% des ventes, ce qui traduit un retour à la normale après 2 années atypiques où les ventes en ligne avaient été fortement boostées par les fermetures des magasins. Les points qui me semblent surtout intéressants, c'est que la part des ventes en ligne a progressé de 4 points par rapport au niveau pré-Covid. Là encore, cela traduit la pertinence de notre modèle multicanal. À noter également l'intégration de la solution Google Cloud Search sur le site Fnac.com qui permet d'améliorer l'expérience d'achat en ligne avec une recherche des produits facilitée et personnalisée permettant d'augmenter les taux de transformation. Je vous rappelle que nous visons d'atteindre au moins 30% de notre activité à l'année pleine sous l'horizon 2025. Par catégorie produit, les volumes d'électroménagers reculent compte tenu d'un effet de base et comparément très élevé sur les semestres, alors que les prix des ventes en moyenne continuent de progresser. Les produits techniques ont enregistré une bonne dynamique dans la téléphonie, les sons et la photo, toutefois compensée par le recul des catégories qui avaient bénéficié des fortes maisons d'équipement pour le télétravail et l'apprentissage à la maison et le lien avec la crise sanitaire. Je pense que vous avez désormais tous au moins un poste de travail équipé à votre domicile, ce qui n'était pas le cas avant la crise du Covid, dont nous avons étendu le nombre des clients potentiels de nos catégories produits. Les produits de Torio continuent d'afficher une croissance de leurs ventes portée principalement par les livres, la vidéo et l'audio, qui bénéficient à la fois de la réouverture de nos magasins et la mise en place des passes culture en France. Les catégories de diversification poursuivent leur solide croissance, portée notamment par la mobilité urbaine. Enfin, les services poursuivent les fortes croissances avec une hausse de nombre d'abonnés à Dartimax et la reprise de la billetterie après la levée des dernières mesures sanitaires fin février. On passe à l'étape numéro 5. Pour conclure mon introduction, je voudrais souligner trois axes forts de notre stratégie. La première, c'est la réparabilité. Dans le cadre de nos partenariats conclus en mars dernier avec Apple, l'ensemble des 143 espaces de services Wi-Fi rejoint les réseaux de services des centres agréés Apple en France. 350 techniciens Wi-Fi sont déjà formés et agréés Apple. Ce partenariat confirme l'ambition du groupe d'atteindre 2,5 millions de produits réparés par an à l'horizon de 2025. Deuxième point, la consommation éclairée, responsable et durable. Cinq Darty est le premier distributeur à avoir intégré à ce site e-commerce un outil innovant permettant aux clients d'estimer l'impact environnemental des différents modes de livraison. Cet outil participe à réduire l'impact environnemental des activités e-commerce du groupe où nous y sommes engagés. Troisième point, développement de nos services. Notre ambition est de devenir les leaders des services assistance au foyer. Nous avons enrichi l'offre d'Artimax en intégrant un service inédit des maintenances préventives, doté d'un service de BCO permettant d'identifier les produits à risque, de mieux les entretenir et d'anticiper les pannes afin d'allonger leur durée de vie. Le nombre des produits réparés s'élève à 1,1 million sous les premiers 6 mois de l'année. Et nous avons à ce jour plus de 220 techniciens en cours de formation qui viendront renforcer nos équipes techniques. Pour Dartimax, vous le savez, l'objectif est d'atteindre 2 millions d'abonnés d'ici à 2025. Je passe maintenant la parole à Jean Brieux qui va nous détailler la performance financière du groupe au premier semestre.
Merci Enrique. Je vous propose de rentrer en détail de la performance de chaque région, avant de commenter la performance opérationnelle et financière du groupe au cours du semestre. Si on commence par la zone France et Suisse, en slide 7. Le chiffre d'affaires de la zone affiche un retrait de seulement moins 1,2% données publiées et moins 1,9% données comparables ce semestre. Cette bonne résistance permet au groupe de surperformer ses marchés et de continuer à gagner des parts de marché sur le semestre, ce qui est confirmé par les données Banque de France publiées le 20 juillet dernier. Par catégorie de produits, la téléphonie, le son et la photo sont en croissance par rapport à l'année dernière. De même, les livres poursuivent leur bonne dynamique avec l'ensemble des magasins ouverts et l'effet bénéfique du Pass Culture qui compte près de 2 millions de jeunes bénéficiaires un an après son lancement. À l'inverse, les catégories d'équipements informatiques et la télévision ont été pénalisées par une base de comparaison très élevée en lien avec la crise sanitaire et l'Euro de football qui a eu lieu en juin 2021 et qui avait boosté les ventes de télévisions. L'électroménager a quant à lui souffert d'une baisse des volumes liée à une consommation atone ce semestre, après avoir enregistré un niveau de vente élevé l'année dernière. En parallèle, les catégories de diversification continuent de bien performer, en particulier les jeux et jouets et la mobilité urbaine. Nature et découverte affichent une croissance de ses ventes par rapport au premier semestre 2021, période au cours de laquelle la totalité des magasins était fermée pendant plusieurs mois. Toutefois, le trafic en magasin au premier semestre 2022 reste encore en retrait par rapport à son niveau pré-crise. Enfin, les services affichent une solide progression porté principalement par la poursuite du gain d'abonnés d'Artimax et la reprise de la billetterie depuis la levée des dernières restrictions fin février dernier. À noter que nous observons encore quelques reports de spectacles en lien avec la crise sanitaire, alors que l'appétit des consommateurs reste fort, principalement pour les concerts et les spectacles. Le résultat opérationnel de la zone s'affiche à 17 millions d'euros, en retrait par rapport au premier semestre 2021. Le ROC du semestre intègre notamment l'impact de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, versée en mars 2022 par le groupe aux collaborateurs, ainsi que les dépenses opérationnelles mobilisées pour le déploiement de nouvelles activités. Ces dernières concernent particulièrement la mise en place du partenariat entre WeFix et Apple, avec la formation de près de 350 techniciens au cours du deuxième trimestre, ou encore l'ouverture des 14 nouveaux Shopping Shop Fnac dans les magasins Manor en Suisse. Si on passe maintenant à la péninsule ibérique en taille de 8 ans. La zone affiche une solide croissance de son chiffre d'affaires de plus 7,1% en données publiées et de plus 6,2% en données comparables sur le semestre. Cette croissance est portée par une solide performance des magasins qui ont bénéficié d'un effet de base de comparaison plus favorable que les autres régions. Je vous rappelle que la zone a été pénalisée par des restrictions sanitaires qui ont duré plus longtemps l'année dernière. Ainsi, après un premier trimestre 2022 en croissance de plus 7% de données comparables, la zone affiche une croissance de plus 5% sur le deuxième trimestre. Toutes les catégories de produits ont tiré la croissance de la zone, en particulier le livre, la téléphonie, la photo et le son. L'informatique affiche une croissance plus normative compte tenu d'un effet de base élevé. Enfin, les services affichent une solide croissance sur la période, portée notamment par la bonne dynamique du crédit. La zone ibérique continue d'être affectée par un environnement inflationniste élevé et une intensité concurrentielle particulièrement forte en Espagne, notamment sur les produits techniques. Ces effets ont pénalisé le résultat opérationnel courant de la zone, qui reste négatif au premier semestre, à moins 1,9 million d'euros, mais en hausse par rapport à l'année dernière de plus 2,3 millions d'euros, grâce à une solide exécution commerciale et une bonne maîtrise des coûts. Examinons maintenant les performances de la Belgique et du Luxembourg en taille de 9. La zone Belgique et Luxembourg affiche une baisse de son chiffre d'affaires de moins 7,3% en données publiées et de moins 7,6% en données comparables, dans un contexte de hausse marquée de l'inflation. Les catégories de produits sont pénalisées par une base de comparaison très élevée, en particulier l'électroménager, qui souffre de volumes de vente plus faibles, mais avec un panier moyen qui reste à un niveau élevé. Au contraire, les services affichent une bonne dynamique sur le semestre, portée notamment par la poursuite du déploiement de Vandenborg Life, abonnement à la réparation équivalent d'Artimax en Belgique. Par rapport au premier semestre 2019, les ventes de la zone restent néanmoins en croissance. Et dans un pays où les salaires et les loyers sont annexés à une inflation qui se maintient à un niveau très élevé, la qualité de l'exécution opérationnelle des équipes permet à la zone d'afficher une résistance de son résultat opérationnel courant à près de 4 millions d'euros sur le semestre. Passons maintenant au compte de résultat en taille de 10. Je ne reviens pas sur le chiffre d'affaires et le taux de marge brute qu'Enrique a déjà commenté en début de call. Passons donc à nos coûts opérationnels, qui s'affichent en hausse de plus 45 millions d'euros par rapport au premier semestre 2021. Cette progression résulte pour l'essentiel de l'impact de la fermeture d'une partie du parc de magasins au premier semestre 2021, en lien avec les restrictions sanitaires, qui avaient notamment permis au groupe de bénéficier de mesures de chômage partiel. Par ailleurs, Fnac Darty s'est engagé en faveur du pouvoir d'achat de ses collaborateurs les plus directement touchés par les tensions inflationnistes actuelles. C'est pourquoi le groupe a versé en mars dernier, à près de 80% des collaborateurs, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ayant un impact de près de 7 millions d'euros et a octroyé une augmentation moyenne de l'enveloppe globale des salaires supérieure à celle des années passées. De plus, le déploiement de nouvelles activités au cours du premier semestre, à savoir la mise en place du partenariat de WeFix avec Apple et l'ouverture des 14 shopping shops Fnac au sein de Manor, a engendré des coûts de déploiement exceptionnels. Enfin, les plans de performance pertinents mis en place par le groupe et déclinés dans l'ensemble des directions ont permis de compenser la quasi-totalité de l'impact de l'inflation sur les coûts salariaux, les loyers et l'énergie du semestre. Ainsi, cette évolution maîtrisée des coûts opérationnels permet au groupe d'afficher une légère baisse des coûts exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2019 à périmètre comparable. Le résultat opérationnel courant s'élève ainsi à 19 millions d'euros au premier semestre 2022, en retrait par rapport au premier semestre 2021, Cependant, hors élément exceptionnel, à savoir la prime de pouvoir d'achat et l'impact du déploiement de nouvelles activités, le résultat opérationnel courant du premier semestre 2022 est en ligne avec celui du premier semestre 2021 et celui du premier semestre 2019 à périmètre comparable, c'est-à-dire hors nature et découverte. Les éléments non courants s'établissent à moins 14 millions d'euros sur le semestre et résultent principalement de charges exceptionnelles liées à la restructuration de notre parc de magasins, incluant la fermeture du magasin Fnac Italie 2. Le résultat opérationnel total s'établit donc à 5 millions d'euros. Les charges financières s'élèvent à moins 18 millions d'euros, en amélioration de plus 7 millions par rapport au premier semestre 2021. Elles comprennent le paiement des intérêts financiers de la dette long terme du groupe, les intérêts sur dette de loyer liés à l'application de la norme IFRS 16 et la mise à la juste valeur par le résultat des actifs financiers du groupe. L'amélioration enregistrée provient principalement de la revalorisation à la hausse de la juste valeur des parts du groupe dans le fonds de capital risque Daphne Purple, dans lequel Fnac Darty a investi en 2016. Après prise en compte de ces éléments et d'une charge d'impôt de 3 millions d'euros, le résultat net part du groupe des activités poursuivies du premier semestre s'élève à moins 17 millions d'euros. Passons maintenant à l'analyse des flux de trésorerie disponibles à fin juin en slide 11. Au total, les flux de trésorerie d'exploitation, hors IFRS 16, s'élèvent à moins 764 millions d'euros en baisse par rapport à l'année dernière. Ce retrait provient principalement de la baisse de l'EBITDA, en ligne avec l'évolution du résultat opérationnel courant que je vous ai commenté précédemment, et de l'évolution défavorable du besoin de fonds de roulement. Ce dernier a été impacté par la constitution de stocks tactiques en début d'année, dans un contexte de hausse marquée de l'inflation et de pénurie de certains composants essentiels à la fabrication de produits vendus par le groupe. Par ailleurs, Fnac Darty a assuré l'approvisionnement des nouveaux shopping shops Manor ouverts en Suisse sur le semestre. En conséquence, à fin juin 2022, le groupe dispose d'un niveau de stock supérieur à celui à fin juin 2021. Côté CAPEX, le groupe a maintenu une bonne gestion de ses investissements opérationnels sur le semestre. Conformément aux attentes, il s'affiche en légère hausse liée aux investissements réalisés pour l'ouverture des nouveaux shopping shops Fnac au sein de Manor. Le groupe ambitionne toujours de maintenir ses dépenses d'investissement annuelles à un niveau normatif d'environ 120 millions d'euros, hors investissement dédié à la modernisation de nos équipements logistiques, qui pourraient être encourus sur l'exercice, et hors investissement lié au partenariat avec Manor. Pour 2022, et compte tenu du contexte macroéconomique, le groupe a ajusté à la baisse son enveloppe de CAPEX, qui devra se situer légèrement en dessous de 140 millions d'euros. Quelques mots à présent sur notre structure financière en slide 12. La situation financière du groupe est saine, avec des capitaux propres de plus de 1,5 milliard d'euros. À la fin du premier semestre, l'endettement financier net du groupe est traditionnellement plus élevé qu'à la clôture de l'exercice, en raison de la saisonnalité de l'activité. Au 30 juin 2022, l'endettement financier net du groupe hors IFRS 16 est ainsi de 586 millions d'euros. Le groupe dispose à fin juin de près de 350 millions d'euros de disponibilité, auquel s'ajoute une ligne de crédit de 500 millions d'euros non tirée à date. La maturité de cette ligne a été étendue à 2027, avec une autre option d'extension à 2028. Fnac Darty est noté par les agences de notation financière Moody's, Standard & Poor's et Scope Ratings. Ces deux dernières ont relevé d'un cran la notation de crédit long terme du groupe pour la porter à W+, et BBB respectivement, avec une perspective stable. Nous sommes très satisfaits de ces relèvements, qui soulignent la solide gestion financière de Fnac Darty. Enfin, ce semestre a été marqué par le versement d'un second dividende ordinaire d'un montant de 2 euros par action, payé le 23 juin dernier et représentant un taux de distribution de 37% du résultat net par du groupe des activités poursuivies 2021. À fin juin, le levier dette nette sur EBITDA hors IFRS 16, calculé sur 12 mois glissants, s'élève ainsi à 1,6 fois, en ligne avec l'objectif fixé par le groupe d'un levier maximum à 2 fois. Si on isole l'effet de saisonnalité du paiement du dividende, puisque je vous rappelle que l'année dernière, nous avions payé 1 euro par action en juillet 2021, et cette année, nous avons payé le dividende au mois de juin 2022, le levier s'élève à 1,4 fois à fin juin 2022, contre 1,1 fois à fin juin 2021. L'année n'étant pas terminée, avec notamment les grands rendez-vous commerciaux de fin d'année cruciaux pour le résultat de l'exercice, nous communiquerons donc, lors des résultats annuels, le niveau de retour aux actionnaires au titre de 2022. Conformément au plan stratégique Everyday, Fnac Darty vise toujours un taux de distribution supérieur à 30%. Je repasse maintenant la parole à Enrique pour vous dire un mot sur les perspectives du groupe.
Merci, merci Jean-Pierre. Pour conclure cette présentation, nous sommes très satisfaits de la performance du groupe dans un contexte marqué par un niveau d'inflation croissante et un environnement géopolitique toujours incertain. Au premier semestre, Fnac Darty a sous-performé ses marchés tout en préservant sa marge brute. La seconde partie de l'année est clé pour les groupes et nous restons pleinement mobilisés. Nous avons trois priorités pour le second semestre. Premier lieu, continuer à sous-performer les marchés grâce à notre positionnement d'acteur omnicanal de référence. En seconde, préserver notre niveau de marge brute en gérant efficacement nos approvisionnements, en offrant une gamme de produits adaptés et en poursuivant les développements de Dartimax. Enfin, en troisième, poursuivre la solide maîtrise de nos coûts pour compenser au maximum l'inflation. En complément, comme vous l'a indiqué précédemment Jean-Brieuc, nous avons revu légèrement à la baisse notre enveloppe d'investissement opérationnel à un montant autour des 140 millions d'euros pour cette année. Et bien sûr, nous poursuivons l'exécution de notre plan stratégique Everyday. Nous sommes résolument engagés pour un choix éclairé et une consommation durable et répondre à une attente forte de nos clients. Nous sommes sous la bonne voie. Nous conformons nos objectifs d'atteindre un cash flow libre opérationnel cumulé d'environ 105 millions d'euros sur la période 2021-2023 et un cash flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025. Je vous remercie d'avoir suivi la présentation et nous sommes avec Jean-Brieuc disponibles pour répondre à vos questions. Merci.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. S'il vous plaît, assurez-vous que votre ligne ne soit pas en mode silence. Je vais vous avertir quand vous pouvez poser votre question. La première question vient de la ligne de Clément Genolo de Brun Garnier.
Oui, bonsoir Enrique, bonsoir Jean-Brieuc.
Bonsoir.
J'aurais trois questions si possible. La première est vraiment sur la traîne de vente. Est-ce que vous observez un ralentissement en séquentiel sur la fin du deuxième trimestre? Le deuxième point est plutôt sur les stocks. Est-ce que vous voyez à date des excès de stocks chez en fait, des concurrents et donc des risques de pression promotionnelle accrue sur le S2? Et mon troisième point est davantage sur l'environnement, on va dire, global de consommation et votre réaction en interne. On voit bien que ça se dégrade, certes en France bien moins vite, mais qu'est-ce que vous avez ajusté un peu en interne au-delà de votre plan d'investissement à CAPEX? Est-ce que vous avez été en mesure ou est-ce que vous avez voulu recontacter des fournisseurs pour réduire vos commandes, les retarder? Est-ce que vous êtes aussi en mesure de faire un peu plus de réduction de coûts ou non? Voilà, merci.
Ouais. Merci beaucoup. Les semestres, vous l'avez vu, on a eu une performance du deuxième trimestre qui est meilleure que celle du premier. On a réduit l'écart par rapport à 2021. On était autour de moins 2, 1T1, et on a atterri mieux. Donc, pas des ralentissements, pas d'effet marqué pour nous. Évidemment, les contextes et les nouvelles, ils sont pas très porteuses, mais la réalité, c'est que la performance, objectivement, des nos ventes au premier semestre, ils ont été bonnes. Sur les niveaux des stocks, la difficulté, c'est comment tout le monde a ajusté ses provisions, ses forecasts par rapport à un marché qui est incertain et des chaînes d'approvisionnement qui restent perturbées. Donc, nous, comme on l'a dit Jean-Brieuc, nous avons un peu plus d'inventaire et ça, c'était voulu. On a voulu se protéger, avoir un bon niveau de disponibilité aussi parce que les parcs, les magasins et les partenaires et les franchises sont développés. Donc, on a voulu être en condition de pouvoir avoir des bons niveaux de disponibilité des produits. Et on verra si c'est le cas toujours pour la fin d'année. Mais a priori, on réussit à avoir ce qu'il faut sans excès et avec un très bon niveau de qualité d'inventaire, ce qui nous concerne. Est-ce que nos concurrents ou d'autres ils sont dans un niveau d'inventaire moins performant? C'est difficile à dire. En tout cas, nous ne constatons pas une dégradation du panorama concurrentiel. Et donc, et s'ils sont beaucoup de stocks, probablement, ils vont les porter encore. Et dans un contexte d'inflation, avoir un peu plus de stocks, c'est plus simple qu'avoir porter beaucoup de stocks dans un contexte déflationniste. Donc, on n'a pas vu d'accélération dans ces points-là. Et puis, le troisième sujet, c'est qu'est-ce que nous avons comme mesure de réaction au cas où les groupes ont été toujours en capacité de s'adapter dans la mesure du possible dans des contextes baissiers et haussières. Ça, je pense qu'on a les crédits en tant qu'équipe pour pouvoir les démontrer. Tout ce qui est évidemment nos plans d'économie, ils sont fortement boostés. Et on a incentive parce que l'inflation dépasse en étant plus important. On a, je pense, une motivation encore plus importante pour aller chercher des plans d'économie dans toutes nos lignes de frais. Probablement, et on est clair, on ne sera pas capable d'effacer la totalité de l'inflation pour S2, mais on sera une mesure de faire une bonne partie. Et puis, je pense que l'essentiel, c'est que nous soyons en capacité de sous-performer nos marchés et, comme on l'avait fait en premier semestre, d'avoir un bon niveau d'activité et surtout un bon niveau des marges, des qualités. Et c'est là surtout qui va protéger nos résultats de la fin de l'année.
Merci beaucoup.
La prochaine question est de Marilyn Ford, de Société Générale.
Oui, bonsoir. J'avais trois questions. J'aurais aimé savoir si le fait que les soldes étaient avancés en France au premier semestre a pu avoir un impact positif sur votre chiffre d'affaires sur le S1 et peut-être au détriment du T3. Je voulais également savoir si vous voyez une progression de vos marques distributeurs sur le premier semestre, ce que ça représente dans votre chiffre d'affaires, si c'est dilutif ou réductif en termes de marge brute compte tenu de la forte hausse de l'inflation et donc de votre capacité à renégocier. Et ma dernière question, c'est au sujet de l'abonnement Amazon Prime qui va fortement augmenter à partir de septembre. Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité ou est-ce que c'est neutre pour ce qui vous concerne ? Merci par avance.
Oui. Les soldes de semestre sont un peu anticipés, mais à l'échelle de semestre du groupe, honnêtement, c'est du résiduel. Il ne faut pas trop faire des commentaires par rapport à ça. Et les soldes, comme vous savez, ça ne concerne pas la totalité des catégories. Donc, même si c'est une période intéressante, suite aux soldes, on a eu la canicule et parfois, ça peut avoir plus d'impact sur l'activité de nos enseignes, avoir des périodes caniculaires qui portent sur l'électroménager, qui ont une légère décalage des soldes. Donc, pas beaucoup de commentaires sur ces points-là. Sur les poids des marques distributeurs, c'est petit, c'est autour des 3%. C'est plus lié à l'offre, à la construction des offres de nos équipes, à la disponibilité de produits, qu'à l'obéissement. J'entends dans ta question, est-ce qu'il y a des consommateurs qui sont en train de faire de la descente en prix pour aller chercher les marques distributeurs? La réalité, c'est que nous avons plutôt vérifier les contraires, c'est qu'il y a une hausse des prix de vente moyen. Donc, pas dans ces points-là. Et il faut savoir que Darty, notamment dans les produits électroménagers, on n'a pas la marque distributeur sur les premiers prix. On a aussi sur les deuxième et troisième quartiles, parfois sur des prix qui sont supérieurs à la moyenne de la catégorie, notamment sur les produits sous licence Thompson. Voilà. Donc, on ne peut pas trouver le même effet dilutif ou réductif que vous trouvez peut-être dans l'alimentaire avec la marque et les distributeurs. Et puis, troisièmement, sur Prime, je suis content parce que ça fait quand même des années que j'ai dit à mon équipe que ça va arriver un jour parce qu'évidemment, même les plus riches, les poches les plus profondes, ils ne peuvent pas continuer à travailler avec les pertes si importantes qu'ils étaient en train de prendre. Donc, ça correspondait bien à la limite du modèle de subventionner à perte les retailers en Europe. Les hausses qui sont annoncées en France et aussi dans les autres pays. Donc évidemment, ça va remettre les cartes encore une fois plus en jeu. Et en plus, il ne faut pas oublier que j'espère bientôt on aura les décrets d'application de la loi d'Arcos qui prévoit l'interdiction de la vente, de la livraison gratuite des livres dans les abonnements. Donc, c'est-à-dire que les heureux clients d'Amazon qui aujourd'hui sont en abonnement pas cher et les livres gratuits, ils vont voir un abonnement qui va exploser et en plus, les livres ne seront pas intégrés dans son abonnement. Donc, ça, par contre, je pense qu'il y aura un effet assez significatif pour nous. On n'a pas la date, mais on espère bien qu'autour d'avril de l'année prochaine, soit appliqué. Et on ne connaît pas encore tous les détails, mais ça va arriver. Donc oui, je pense que ça remet un peu un bon équilibre entre les coûts d'exploitation magasin et digital. Et ça encore donne des pertinences à notre modèle multicanal. Et donc les magasins, ils reviennent dans les jeux avec un bon modèle économique compétitif.
Très bien.
Et après la question de la file d'attente, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1. La prochaine question vient de la ligne de Stéphane Benamou de BNP Exane.
Bonsoir à tous. J'aurais trois questions, s'il vous plaît. La première, oui. Ce serait sur la décomposition de la marge d'EBIT. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication en termes de contribution par rapport au mix produit, les services l'effet inverse sur l'inflation des OPEX? Ma deuxième question, c'est pour revenir sur le point d'Enrique au début, sur effectivement votre capacité de surperformer le marché. On l'a bien vu, notamment vis-à-vis des données Banque de France. De ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'inflexion de tendance significative depuis la fin du S1. Est-ce qu'il faut comprendre que du fait de votre capacité à surperformer parce que vous avez une disponibilité produit qui est excellente, il serait possible de réitérer finalement la performance du S1? Et troisième point, c'est plus sur la gouvernance. Monsieur Kretinsky est monté au capital à plusieurs reprises, donc maintenant il détient 20%. Quels sont les échanges que vous avez avec lui? Ils sont de quelle nature? Et quelle est la raison pour laquelle il ne souhaite pas intégrer le board? Merci.
J'ai fait une dernière, je passe la parole après à Jean-Brieuc. Je précise, j'ai dit qu'on n'avait pas vu une dégradation à la fin du semestre. Je n'ai pas commenté les résultats après la fin du semestre. Juste pour être clair, parce que j'ai Stéphanie qui me regarde avec des grands yeux. Donc, nous, on n'a pas parlé de la performance du semestre. C'est vrai qu'on ne peut pas parler du mois de juillet. Ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas vu une différence importante entre les débuts et la fin du trimestre qui ont commenté. Sous la gouvernance, vous l'avez vu, Daniel Kretinsky, avec sa société VESA, il a monté à 20%. Donc, c'est quand même un des actionnaires importants aujourd'hui, un deuxième après Syconomie. Je pense que lui-même, dans ses communiqués, il a dit qu'il est d'abord très intéressé globalement à ce monde du retail qu'il connaît vachement bien parce qu'il est dans beaucoup des, il est présent dans beaucoup de sociétés dans différents pays. Donc c'est un secteur qu'il considère très mal valorisé et pour des modèles comme Afin Garty qui peuvent être résilients, qui sont faits des paris et ils ont prouvé la capacité de résister, de faire l'évolution sur des modèles pas seulement digital, mais aussi sur un modèle plus serviciel à valeur ajoutée. Donc, je pense qu'en étant intéressé, il a profité d'un contexte de marché. Il a pu créer une position assez rapidement dans notre titre. Il a dit que pour l'instant, il n'est pas en demande de sa partie du conseil d'administration, entre autres parce qu'il est doublement satisfait, très satisfait, voire même de la qualité des management et des stratégies qui est en cours. Donc, il ne se sent pas aujourd'hui en besoin de changer ça, ni d'altérer l'équilibre qui est aujourd'hui dans la société et de se faire représenter dans les conseils. Est-ce qu'un jour, ça pourra changer? On verra. En tout cas, avec un pas si important, je suis sûr que les conseils, il sera d'accord pour les donner les sièges s'il les souhaite, mais pour l'instant, il ne les souhaite pas. Et les échanges que nous avons avec lui sont évidemment des bonnes qualités, des échanges tout à fait constructifs et qui ont permis qui ont permis à M. Kretinsky de s'intéresser à la société et d'investir. Et nous sommes contents d'avoir attiré quelqu'un qui a une volonté de soutenir la société dans son stratégie actuelle, au-delà des autres actionnaires qui sont aussi présents.
Et par Jean-Brieuc, sur ta première question, donc là, qui portait en fait sur la décomposition de la marge d'EBIT par origine de vente, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. On ne communique la marge de ROC que par géographie et pas par nature de catégorie. En revanche, si on veut comprendre la façon dont la marge d'EBIT s'est composée, si on regarde la marge brute, je peux donner quelques indications sur la marge brute et sur les coûts opérationnels. La marge brute, donc, comme je l'ai dit, elle augmente de 120 points de base. Là-dedans, il y a une contribution négative de la franchise d'à peu près 15 points de base. Donc hors franchise, on a 135 points de base. Et ces 135 points de base, ils se répartissent de façon à peu près équilibrée, on va dire à 10 points de base près, entre la billetterie qui repart, les services et l'effet mix avec le retour des clients en magasin. Le mix qu'on appelle le mix canal, avec le retour des clients en magasin, c'est à peu près un tiers à 10 points de base près. Donc ça, c'est pour bien comprendre l'évolution de la marge brute. Sur les coûts, comme on l'a dit, ils sont en baisse par rapport au chiffre d'affaires. Nous, on regarde souvent en euros, parce que c'est quand même plus pertinent. En euros, ils augmentent de 45 millions d'euros. Et pour être très précis, vous avez trois éléments qui expliquent ces 45 millions d'euros. C'est d'une part la fermeture des magasins de l'an dernier. Donc, on avait fait de base, on avait moins de coûts parce que les magasins étaient fermés et qu'on avait des salariés qui étaient en chômage partiel. La prime de 7 millions d'euros qu'on a versée en mars 2022 et finalement le développement d'activités comme du périmètre, hein, comme les 14 Shopping Shop Manor qu'on a mis dans le périmètre, qu'on a ouvert pardon, au premier semestre. L'inflation n'a quasiment pas d'impact sur nos coûts au premier semestre. On a réussi à aller chercher la quasi-totalité, on va dire, par nos plans de performance. On l'a fait au premier semestre, ce n'est pas forcément vrai au second semestre. On a des effets d'inflation qui vont être plus marqués au S2 ou au S1. Et voilà, Enrique, je pense à rappeler nos ambitions en la matière, que ce soit sur la marge ou les coûts pour le S2, mais on verra ce que ça donne.
C'est très clair, merci.
Merci.
Il n'y a pas de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1. La prochaine question vient de la ligne de Marie-Lyne Fort de Société Générale.
Oui, merci pour la réponse que vous venez de faire sur la décomposition des coûts. Du coup, ça me suscite une autre question. Donc, l'ouverture des 14 shopping shops, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de ce que ça a représenté sur le premier semestre? Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact équivalent sur le deuxième semestre? Et pareil pour les éléments de fermeture de magasins, j'ai plutôt en tête que cet effet sera neutre sur le S2. Est-ce que vous pouvez confirmer cet élément? Merci beaucoup.
Alors Marine, tu veux dire sur les coûts, bien tu es sur le chiffre ou le ROC?
Je parle sur le bridge. Donc là, les plus 45, qui est un élément fermeture de magasin, du S1-22 versus le S1-21.
Oui.
Est-ce que cet élément-là, est-ce qu'on aura un effet rémanent sur le deuxième semestre de cet élément-là? Il me semble que non, mais je voulais que ce soit confirmé. Et sur le déploiement des 14 shopping shop Manor hein, sur le premier semestre, est-ce qu'il faut s'attendre à un impact équivalent sur le deuxième semestre? Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de ce que ça a représenté en termes de bridge de coûts sur le premier semestre?
Alors sur les fermetures de magasins, on n'a quasiment aucun magasin qui était fermé sur le second semestre en 2021. Oui. On a eu quelques restrictions sur la péninsule ibérique, mais on parle de pas grand-chose. Donc normalement, c'est quelque chose qui est parti en premier semestre et qu'on ne verra pas sur le second. Voilà. Sur Manor, on parle de coûts qui ont représenté sur le semestre une petite dizaine de millions d'euros dans ces eaux-là. Voilà, autour d'une dizaine de millions d'euros. On ne va pas guider les coûts de façon précise au S2, mais évidemment, ces coûts du S1, on les aura aussi au S2. On ne les a pas fermés le 1er juillet, donc on les a lancés. C'est effectivement dilutif sur le ROC, parce que on a tous les coûts d'ouverture, de marketing, de recrutement, de formation, d'ouverture, qui finalement représentent une masse de coûts qui est quand même significative et qui, finalement, ont un impact sur les EBIT, le ROC qui est négatif sur le S1. Ce sera probablement moins vrai sur le S2. Mais la performance du S2 des Shop It Shop Manor, en termes de ROC, je ne peux pas la commenter maintenant. On verra ce qu'ils font. On aura plus de chiffres, plus de marge et probablement des coûts qu'on commentera quand on, en février l'année prochaine. Mais en tout cas, il faut s'attendre à des coûts. La comparaison sur le S2 22 par rapport au S2 21, on aura des coûts liés à ces shopping shops, ça c'est sûr.
Mais pas davantage. Je voulais savoir si vous allez ouvrir davantage, déployer davantage le shopping shop Manor qui impliquerait un coût plus supplémentaire.
Non, on a tout fini. Ils sont tous ouverts. En revanche, ce qu'on va avoir, c'est des effets année pleine de shopping shop qu'on a pu ouvrir en milieu de semestre.
D'accord.
Donc ce sera un net entre l'effet année pleine et puis les coûts d'ouverture. Et ça, on commentera au S2. Enfin, on commentera le S2, pardon, en février 23.
Ok, merci beaucoup.
Go ahead.
Hi.
J'ai une question sur la répartition des CAPEX, du capital. Je crois que vous avez réussi à couvrir la moitié de vos investissements avec du free cash flow et puis créer pas mal de free cash flow par la suite. Et qu'est-ce que vous pensez des dividendes par rapport au buyback? Apparemment, vous aurez pas mal de liquidités que vous pourrez répartir. Est-ce que vous avez envisagé ce genre de solution? Merci.
Aujourd'hui, alors pour répondre à votre question, on a toujours été très clair sur le retour à l'actionnaire. On vise un payout en termes de dividendes de minimum 30%. Donc ça, on le confirme aujourd'hui. S'il reste des liquidités au groupe, on a des options de M&A, on a des options de dividendes ou de buyback. La question clairement se posera au moment de l'arrêté des comptes l'année prochaine. Là, aujourd'hui, effectivement, on a une certaine, par rapport au niveau de levier que nous avons fixé à deux fois, on a une certaine marge de manœuvre, mais de façon assez claire aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, on va rester sur une position assez prudente quant à un éventuel retour additionnel aux actionnaires dans les mois qui viennent.
Après, une autre question, est-ce qu'on peut financer les
réglages pour nous? Ben, excusez-nous, mais il y avait un début de question que moi, je n'ai pas complètement compris. Hein. Si vous pouviez la répéter.
Non, ce n'était pas vraiment une question. Mais je me disais, vous avez un bon CAPEX, vous n'avez pas trop d'endettement, vous êtes prudent, mais si vous avez créé 500 millions de free cash flow sur 22-23 et vous pensez créer plus de 200 millions de cash flow par an à partir de 2025, ça fait quand même beaucoup de liquidités. Et j'ai l'impression que ça serait une bonne valorisation pour l'action. Alors je me demandais si vous avez envisagé de donner des dividendes qui soient un peu plus généreux, ou alors par rapport à des buybacks. Est-ce que vous envisagerez des buybacks, ou mais peut-être que vous avez d'autres options que vous gardez sous le coude? Parce que l'environnement est encore très concurrentiel. J'essaie de voir comment vous envisagez cette gestion des liquidités. Parce que votre business, apparemment, crée pas mal de liquidités. Et je me demandais comment vous alliez les employer.
Oui, merci pour la question, c'est très clair. Bon, la première réponse, c'est que nous avons doublé les dividendes par rapport à l'année dernière. Ça, c'était dans nos engagements et fruits de nos résultats de 2021, les dividendes ont été versés en premier semestre. Après, comme l'a dit Jean-Brieuc aujourd'hui, on est dans un contexte que vous nous l'accorderez un peu plus tôt incertain. Je pense qu'on est raisonnable si on dit qu'on va attendre la fin de l'année pour voir où nous sommes. Après, effectivement, nous avons donné une guidance sur la trajectoire à 2023 et puis la suite. Et évidemment, avec la politique des retours d'actionnaires que nous avons présentée, ça permettra effectivement, accompagné une hausse des dividendes ou des retours à l'actionnaire exceptionnels au fur et à mesure dès la création de ces liquidités. Donc, nous comptons effectivement pouvoir distribuer plus largement, comme nous l'avons fait. Après, on rentre dans une période où le groupe peut avoir aussi des opportunités de M&A très ciblées avec des opportunités qui permettront de nous accélérer sur nos plans stratégiques. Et nous restons attentifs, évidemment. Et c'est bien aussi qu'on puisse avoir des flexibilités financières pour pouvoir faire ce type d'opérations. Si finalement on ne les fait pas et la trajectoire il est bien confirmée, bah, on sera très content et très généreux et partager avec nos actionnaires pour pouvoir booster la valorisation du groupe.
Ça semble rationnel de rester assez prudent, ça je suis d'accord. Mais j'aurais voulu comprendre si vous y avez réfléchi et qu'est-ce que vous envisagez pour le moment. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse.
Oui, bon, merci pour vos commentaires et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je pense que ce que vous avez fait, c'est donner au marché vraiment nos playbooks de comment nous souhaitons nous comporter pour ce retour à l'actionnaire, à la fois sur un levier maximum et à la fois sur un retour. On les met en route avec quand même un dividende qui a été doublé par rapport à l'année précédente. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, un payout qui était quand même assez significatif. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse tenir ces caps et aussi, pas oublier que les marchés, et ça c'était toujours la vision que le groupe a eue, les marchés vont se restructurer, ils vont se consolider. Et nous souhaitons pouvoir faire partie de ces mouvements si on trouve des cibles qui nous conviennent. Donc, c'est pour ça que la vie peut servir aussi à ça. Et merci.
Il n'y a pas de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1.
Merci de market. So, we want to return.
Il n'y a pas de questions dans la file d'attente. Je vais donner la parole à votre hôte.
OK. Bon, écoutez, mais merci beaucoup pour vos écoutes et votre question. On vous libère si vous souhaitez partir pour d'autres publications. En tout cas, merci d'avoir participé à la publication de ces semestriels et on espère à bientôt avoir l'opportunité de vous croiser ou vous revoir à nouveau. Et en attendant, bon vacances bientôt, j'espère. Au revoir, merci.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.